الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني حبك من قلبي يا قلبي انتي عيني.
Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission Une heure en Palestine, programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui anime l'émission et je suis Bernard. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de notre association www.assopalestine13.org. Et merci à Sidi qui assure la technique. Gaza s'enfonce dans une précarité épouvantable sous l'œil indifférent des puissances occidentales et des pays arabes. Des élucubrations de Trump sur la création d'une riviera gazaoui au déplacement forcé de Palestiniens envisagé par le même Trump, appuyé par le gouvernement Netanyahou, aucune proposition correspondant au droit international n'est mise en avant. Aucune proposition sur la souveraineté des Gazaouis sur leur territoire. Aucune avancée de la phase 2 du cessez-le-feu sur le départ des troupes israéliennes ou l'organisation d'une conférence sur la reconstruction de Gaza. Face aux tensions en Ukraine, réactivées par des propositions proches de celles de Poutine formulées par Trump, le monde reste focalisé sur les déclarations contradictoires du président américain. Gaza et la Palestine n'existent presque plus, malgré de nombreuses manifestations de soutien qui ressemblent à une forte déchirure entre les peuples et leurs gouvernants. Seule l'Allemagne fait exception en réprimant très violemment toute manifestation ou un simple brandissement d'un drapeau palestinien. Mais c'est aussi dans les pays arabes et à leur gouvernement que se pose aujourd'hui la question de ce soutien. Ces pays affichent un non sans faille à Trump sur l'accueil des Palestiniens sur leur sol, notamment la Jordanie et l'Égypte, un peu coincés et contraints de faire allégeance. Trump ayant menacé de suspendre les aides conséquentes à ces deux pays. L'aide américaine à l'Égypte est évaluée à 2,1 milliards de dollars chaque année. Le reste est de 815 millions de dollars pour l'assistance économique. Pour la Jordanie, l'aide s'élève à 1,4 milliard de dollars. Voilà ce qui s'appelle être tenu par la barbichette. Nous vous proposons, pour faire un peu de lumière sur Gaza, un replay d'informations, une rediffusion de l'émission de France 24 intitulée « Gaza, le monde arabe dans l'embarras ». En préambule, c'est Le Média qui fera le point sur la situation à Gaza. Nous accueillons donc Amina Kalash du Média et ses invités.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Alors, ça fait maintenant un mois et demi que l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les Gazaouis luttent encore pour assurer leurs besoins vitaux. Le 2 mars dernier, Israël a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire en plein mois de Ramadan. Pas d'électricité, restriction de l'entrée de nourriture, de médicaments et de carburant, ce qui a entraîné une aggravation de la famine ainsi qu'une énième crise sanitaire. Israël se défend. L'objectif serait de faire pression sur le Hamas pour la libération des otages et la conclusion d'un cessez-le-feu. Encore une autre façon d'utiliser l'aide humanitaire comme outil de négociation.
Oui, comme un outil de rapport de force. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la proposition de cessez-le-feu était déjà problématique en tant que les négociations concrètes, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il allait advenir de Gaza, qu'est-ce qui allait advenir du point de vue de l'aide humanitaire, etc., était plus ou moins suspendu. On avait une première phase avec un début d'échange des otages contre des prisonniers politiques palestiniens qui sont, encore une fois, des milliers. Hein. Il y avait l'idée qu'au bout d'une soixantaine de jours, recommencent les négociations sur le fond politique du problème, à savoir qui a la souveraineté de Gaza, les Palestiniens, hein, mais cette souveraineté est niée. L'État colonial israélien utilise l'aide humanitaire qui était censée être livrée lors de la seconde période du cessez-le-feu comme un moyen de pression contre les Palestiniens, mais en vérité un moyen de mort. Parce qu'en fait, il y a une suspension temporaire de l'utilisation des armements de façon massive, mais elle continue avec des attaques régulières et donc des violations du cessez-le-feu. Et de l'autre côté, cette question de la suspension de l'aide humanitaire, c'est une question qu'on a déjà rencontrée, en fait. Ça fait des années que, systématiquement, c'est utilisé comme un moyen de martyriser le peuple palestinien, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On a dit rapport de force, c'était la forme sobre, mais en vérité, c'est un moyen qui a concrètement des conséquences sur les vies. Et de la même manière, cette question de l'énergie, c'est aussi une question de vie ou de mort, puisque la question de l'accès à de l'eau potable est conditionnée en fait par l'électricité, parce que c'est une usine de dessalement qui va permettre principalement d'avoir accès à l'eau pour, on va dire, au moins la moitié de la population. C'est des moyens de pression. Tu lui faisais remarquer, le mois de Ramadan, c'est un mois particulièrement important sur place et pour les Palestiniens.
Ils ont attendu le lendemain.
Exactement, ouais. Mais parce que, pareil, ça fait partie aussi de la guerre psychologique, j'allais dire, le nombre de violations des droits de l'homme qui existent sur place en raison de l'État colonial israélien est gigantesque, mais généralement, la violation des droits religieux et les provocations qui sont effectuées, en fait, pendant les périodes de fêtes religieuses sont nombreuses. À Jérusalem, c'est systématique, pour l'accès à la mosquée Al-Aqsa, par exemple, en Cisjordanie également, moi, je dirais à Hébron, l'accès à la mosquée d'Abraham est littéralement suspendu de façon complètement aléatoire et arbitraire, régulièrement aussi à des moments de fêtes religieuses, parce que c'est un moyen de faire comprendre que la puissance israélienne se maintient sur la vie du peuple palestinien, ce qui est tout le problème depuis le départ.
Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que Israël poursuit son entreprise de nettoyage ethnique de la Palestine entamé en 1948, qui s'est accéléré considérablement depuis le 7 octobre 2023. Et étant donné que les pays occidentaux ont donné un blanc-seing total à Israël à la suite de l'attaque du 7 octobre, eh bien maintenant c'est encore plus décomplexé. Ça ne l'était pas vraiment avant, mais ça l'est encore plus. Et c'est des manifestations de cruauté gratuite, en fait, parce que à Gaza, quand on coupe l'aide humanitaire, l'électricité, en pleine trêve, en plein cessez-le-feu. Et c'est vraiment pour faire craquer la population palestinienne, mais gratuitement, parce que pour la pousser au départ, mais même c'est paradoxal, parce que ceux qui voudraient partir, est-ce qu'ils peuvent partir? Ils peuvent pas partir, en fait. Donc c'est juste de la cruauté. Ils disent que c'est pour mettre la pression au Hamas et pour inciter à la démilitarisation du Hamas, que le Hamas n'acceptera jamais, évidemment. C'est juste des manifestations de cruauté envers une population qu'ils honnissent parce qu'elle elle empêche la réalisation du nettoyage. Leur présence, leur simple existence aux Palestiniens est un problème pour Israël. C'est là, on est vraiment dans le fascisme pur. Je n'ai pas d'autres termes. Il n'y a pas quand on prive 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, de nourriture, d'électricité, de toit, d'hygiène, de soins, etc. On est dans le fascisme pur et je n'ai pas d'autre explication que ça, parce que Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit au moment où il refuse là, le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu? C'est on exige la démilitarisation tout de suite de la bande de Gaza, plus de Hamas et le retour des otages sans condition, etc. Comme s'il en avait quelque chose à faire des otages, Netanyahou. Netanyahou n'en a rien à faire des otages. Ça, en Israël, c'est dit et redit par les familles des otages.
Oui, il y a des manifestations aussi à Tel Aviv.
Sans arrêt, qui demande là une ils demandent, les familles des otages demandent juste un accord sur la libération de tous les otages, point, une trêve longue, voilà, pour permettre la libération de tous les otages. Et Netanyahou, c'est le cadet de ses soucis. Je veux dire, n'importe quelle analyse sérieuse le voit, que ça, dès le 7 octobre, c'est le cadet de leurs soucis, puisque dès le 7 octobre, je vais peut-être, j'anticipe sur d'autres questions, mais je veux dire, dès le 7 octobre, la doctrine Hannibal a été employée, maintenant ça sort dans la presse. La doctrine Hannibal qui consiste à tout, enfin, dès qu'un otage est pris, enfin, dès qu'un Israélien est pris en otage, à tirer sur tout ce qui bouge, quitte à sacrifier l'otage. Et après, l'attitude vis-à-vis des otages n'a fait que confirmer qu'ils n'en ont rien à faire des otages et que c'est vraiment pour, voilà, ils essayent parfois de, voilà, cet accord de cesser le feu, c'est parce que Trump a tordu le bras à Netanyahou, mais sinon, il n'y avait pas d'accord sur les otages. C'est pas le problème de Netanyahou n'est pas les otages. Le problème de Netanyahou est de vider la Palestine de Palestiniens. C'est tout.
Voilà. D'autant plus qu'effectivement, Netanyahou a fait échouer plusieurs fois le cessez-le-feu pendant que l'administration Biden était encore en place. La presse israélienne le révèle régulièrement. Plusieurs tentatives, vous avez différents diplomates israéliens qui ont parlé, que ce soit Haaretz ou 972, le magazine israélo-palestinien, qui a sorti énormément d'enquêtes sur la période. Et en fait, on a tous vu cette question de cessez-le-feu comme sur le plan de la perspective internationale, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait eu un accord avec différentes parties. Mais en fait, c'est un enjeu interne à la politique israélienne. Quand le cessez-le-feu est accepté par Netanyahou, enfin supposément accepté, parce qu'on a bien vu que tout de suite des violations se multiplient et en vérité il n'y a aucune volonté politique d'aller au bout de la logique d'une démilitarisation de Gaza, d'un retrait des troupes israéliennes, qui est un des enjeux de la négociation. Il y a eu une fracturation partielle de la coalition politique qui portait Netanyahou. Je rappelle qu'il est en coalition avec 50 nuances d'extrême droite, si vous voulez. Mais à l'intérieur, il y a les plus durs, que ce soit Bezalel Smotrich ou que ce soit Ben-Gvir, ils se sont retirés temporairement de la coalition au lendemain de l'acceptation. Parce que eux, leur ligne, qui est la ligne de la droite, des colons israéliens, de l'extrême droite la plus radicale et revendiquée effectivement fasciste, c'est de réimplanter les gens dans Gaza, et c'est le cas depuis, à minima depuis 2005 pour l'extrême droite israélienne qui s'est construit organisationnellement sur cette question, mais effectivement qui est le but du projet colonial depuis le départ, à savoir vider la Palestine des Palestiniens pour pouvoir installer un autre État à sa place. Et cette rupture dans la coalition, elle a mis sous pression Netanyahou, qui a été obligé de, plus vite que l'on ne pouvait le penser, faire un pas en arrière sur cette question de cesser le feu, effectivement accepté au forceps par le fait que Trump voulait une victoire ou une annonce à faire pour pouvoir commencer sa présidence, et en sachant que Trump et Netanyahou ont de bien meilleures relations que avec l'administration Biden. La meilleure preuve, c'est que quand Netanyahou est reçu à l'Élysée, à la Maison Blanche, il est reçu, et c'est à ce moment-là que Trump fait sa première déclaration sur transformer Gaza comme en Côte d'Azur. Donc c'est aussi un problème de politique intérieure et de fracturation, de stabilité du pouvoir que Netanyahou veut garder.
Merci Amina Kalash. Et maintenant, place à France 24 et à Nabia Makhloufi.
Bienvenue dans le débat de France 24. Passé la sidération, après les propos de Donald Trump de vider Gaza de sa population, les États arabes de la région affichent un non clair et unanime. L'Égypte et la Jordanie martèlent le refus d'accueillir les plus de 2 millions de Palestiniens chassés de leurs terres. Sur la même ligne, l'Arabie saoudite balaie elle aussi toute tentative de négociation. Et dans le même temps, et malgré l'indignation du côté de l'État hébreu, le ministre israélien de la Défense a donné aujourd'hui l'ordre à l'armée de préparer un plan qui permettra, dit-il, à tout Gazaoui de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepterait de l'accueillir. Pour nous accompagner tout au long de cette émission avec nous en plateau ici, Insaf Rezaghi. Bonsoir à vous, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes docteur en droit international, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient de Jérusalem, membre de l'Association des juristes pour le respect du droit international. À vos côtés, James André, grand reporter et chroniqueur, spécialiste des politiques étrangères ici à France 24. Vous êtes allé plusieurs fois dans la région, James, pour y tourner plusieurs reportages. On reviendra aussi sur votre expérience. Merci d'être avec nous. Et puis David Chemla, également sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire général de GCAL, European Jewish Call for Reason. D'un mot, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'est GCAL ?
Bien, c'est une association que nous avons créée en 2010 au niveau européen. qui regroupe, disons, à l'appel d'un certain nombre de personnalités juives européennes, une expression d'une partie importante de la diaspora qui se bat depuis toujours, pratiquement, pour une solution politique sur la base de deux États, parce que c'est la seule solution pour résoudre ce conflit et non pas les folies de M. Trump dont on va parler.
Et en ça, votre point de vue sera aussi également précieux. Et puis pour nous accompagner à distance, et vous êtes aussi la bienvenue, Myriam Benrad, bonsoir à vous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, professeur associé en relations internationales. Vous réagissez quand vous le souhaitez. Merci à tous les quatre d'accepter de participer à cette discussion. Une première, peut-être un premier tour de table pour vous interroger d'abord sur cette position des États arabes. On l'a dit à l'instant, ils rejettent en bloc ce plan. Est-ce qu'ils iront pour autant à la confrontation ? James, vous avez d'abord la parole.
Bah écoutez, je pense que c'est évidemment politiquement une... Enfin, C'est une proposition qui est inacceptable d'abord pour les Palestiniens et évidemment pour une majorité d'États arabes. On le sait, ça pose énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, selon ce que dit Donald Trump, eh bien, il verrait bien les Gazaouis tout simplement traverser le passage de Rafah et aller s'installer en Égypte, et il le dit dans 12 autres pays. Mais si on prend le cas de l'Égypte, par exemple, c'est complètement explosif sur le plan politique pour Abd al-Fattah al-Sissi, tout simplement parce que, eh bien, d'abord... Il faut savoir que le Hamas est affilié notamment aux frères musulmans, que les frères musulmans sont une organisation terroriste pour les Égyptiens, s'ils l'ont déclaré après l'épisode Morsi. Donc ça reviendrait effectivement à faire rentrer, par exemple, si on parle de responsables de Hamas, bah, des terroristes en Égypte, ce qui pose problème. Et puis, bah, c'est un risque sécuritaire, puis c'est un risque social. Il faut voir que l'Égypte est déjà dans une situation économique très complexe, qu'elle a déjà reçu de nombreux réfugiés, notamment soudanais, et que eh bien, la population, évidemment, en plus, si vous voulez, la cause palestinienne, c'est quelque chose qui est très important pour la population égyptienne. Donc céder à l'ouverture de Rafah et faire quitter les Palestiniens à leur terre, c'est quelque chose de profondément inacceptable pour les Égyptiens, mais aussi pour tous les pays de la région.
Ce qui pose la question de savoir justement, Myriam Benrad, je vous fais également réagir là-dessus, est-ce que la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite iraient jusqu'à une confrontation directe ? Pour l'instant, ces pays que je cite ont en tous les cas réagi par voie de communiqué. Ça reste assez tiède, disons-le.
Alors tiède, je ne sais pas, parce qu'il y a eu quand même une opposition qui a été formulée conjointement par ces pays. Alors tout d'abord, en effet, par l'Égypte et la Jordanie, qui sont les premiers États concernés par un éventuel transfert, comme le nomme le gouvernement israélien des Palestiniens vers leur territoire. Il y a eu un rejet immédiat, et puis maintenant c'est soutenu par une partie des États de la Ligue arabe, dont l'Arabie saoudite en effet, qui... souhaite que cette proposition, cette optique soit complètement abandonnée du côté israélien, et qui a donc signifié très clairement qu'il n'y aurait aucune perspective de normalisation si l'idée était d'expulser définitivement les Palestiniens, non seulement de Gaza, mais aussi bien sûr de Cisjordanie. Mais alors ce qu'on voit quand même, c'est que on peut se poser des questions sur les objectifs qui étaient ceux de cette guerre, puisqu'on a rendu la bande de Gaza invivable à travers ces destructions de grande ampleur qu'on voit à l'écran alors que je vous parle. Mmh. Et on nous parle de reconstruction, on nous a parlé un temps de transition politique. On a plutôt l'impression qu'en réalité, l'objectif était en effet de faire de la bande de Gaza un territoire inhabitable. Peut-être une dernière chose, il y a eu une forme de rétropédalage de la part de l'administration Trump, en tout cas de ses conseillers, qui semblent dire que ce transfert, cette réinstallation des Palestiniens ne serait que temporaire, le temps de reconstruire Gaza. Mais enfin, du côté arabe et surtout du côté palestinien, c'est perçu en réalité comme une potentielle deuxième Nakba, la catastrophe de 48, qui avait déjà vu l'expulsion massive d'un certain nombre de civils palestiniens. Donc je ne pense pas qu'on ira à la confrontation militaire, mais l'opposition est restée très, très forte, à mon avis, invariable.
Et du côté du droit, en tous les cas, Insaf Rezaghi, c'est complètement illégal.
C'est complètement illégal, c'est une violation flagrante si ça venait à être mis en œuvre de la 4e Convention de Genève, qui est une convention qui a un caractère coutumier et qui interdit formellement de procéder à la déportation ou au transfert forcé d'une population dans un contexte d'occupation, parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la bande de Gaza, qui fait partie intégrante du territoire palestinien, est un territoire considéré comme occupé, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice cet été. Israël contrôle ce territoire aujourd'hui encore, contrôle la vie des Palestiniens qui y sont présents. Et donc, l'objectif, mais c'est un objectif plus global finalement, c'est de mettre à mal encore une fois l'unité et l'intégrité territoriale du territoire palestinien. Et puis ça participe finalement de tout ce processus de déshumanisation des Palestiniens de Gaza, 2,3 millions, dont je rappelle, et ça fait écho à ce qui vient d'être dit, que 70% sont soit des survivants directs de la Nakba, soit des descendants de la Nakba. Donc c'est un traumatisme continu qu'on remet sur la table, alors que, et c'est Donald Trump qui le disait très clairement, il disait... Gaza est complètement détruite aujourd'hui. Et donc, au lieu de dire, on constate qu'il y a des destructions, des violations du droit international, et donc, on appelle les responsables, finalement, à être traduits devant la justice internationale, ce qu'il fait devant le responsable de ces destructions, c'est de dire l'inverse, c'est de dire, on va continuer à violer le droit international.
David Chemla, ce que dit à l'instant Insaf Rezaghi, et plus largement aussi sur ce plan approuvé par le Premier ministre israélien, par d'autres ministres du gouvernement israélien, il est perçu comment au sein de la société israélienne elle-même, tout le monde n'y est pas forcément favorable.
Écoutez, la société israélienne vit encore le traumatisme du 7 octobre. Si demain matin, ils peuvent se réveiller, il n'y a plus aucun Palestinien en face d'eux, ils seraient tous très heureux. De même, tous les Palestiniens, s'ils pouvaient se réveiller demain matin et qu'il n'y ait plus aucun Israélien en face d'eux, ils seraient aussi très heureux.
Vous pensez qu'on
Mais
a atteint ce point-là ?
C'est impossible, tout le monde le sait. En Israël, les Palestiniens ne disparaîtront pas et les Israéliens ne disparaîtront pas. Il y a dans toute cette terre 15 millions d'habitants, 7 millions et demi, à peu près 8 millions de Juifs et à peu près autant de population palestinienne de autour de 7 millions avec les Arabes israéliens qui ont la nationalité israélienne. Donc il faut trouver une solution de partage et les gens sérieux en Israël le savent. Et vous savez, ce sont des bulles. Trump nous a habitués depuis 3 semaines. Chaque jour, il sort de son chapeau encore une déclaration comme cela. Mais ce n'a aucune possibilité de réalisation parce que à partir du moment où tous les États arabes ont refusé d'accepter cette délocalisation des Palestiniens de Gaza et non pas de la Cisjordanie, on ne parle que de Gaza hein, pour l'instant.
C'est peut-être la prochaine étape, on va y revenir.
Parlons de ce qui existe déjà, qui
vous
est déjà
parlez,
assez absurde.
Et vous parlez de délocalisation, c'est le terme qui est utilisé
par les Américains, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, en anglais en tout cas. Et en parlant de délocalisation, il a même dit ils pourront revenir une fois qu'on a construit. Bon, mais enfin, tout ça c'est une bulle parce que où les délocaliser, aucun pays ne les acceptera, à moins qu'ils veuillent intégrer en Californie ou en Floride 2 millions de Palestiniens, ce dont je doute, puisqu'ils déjà ils ferment la porte aux Mexicains, je ne vois pas qu'ils l'ouvrent aux Palestiniens. Donc tout ça, ça va être une bulle qui va exploser. La question fondamentale aujourd'hui, c'est la poursuite du cessez-le-feu et la poursuite de l'accord qui a été signé sous la pression de Trump, un accord préparé par le président Biden au mois de mai dernier, il était prêt. Grâce à l'élection de Trump, Netanyahou a fini par accepter les termes de cet accord. On en est au cours de la première étape seulement, 13 otages ont été libérés. Les populations d'Israël attendent de savoir est-ce que cet accord va continuer. Est-ce que samedi, il y aura encore d'autres otages libérés? C'est ça les questions.
Il est mis en péril, là, avec ce qui
se passe. Il est mis en péril, effectivement. Je ne pense pas que le Hamas arrêtera cet accord parce qu'il a intérêt à le poursuivre dans la phase actuelle. Les images des prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord, ça donne au Hamas une image qu'il renforce auprès de son opinion publique, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza. Alors je pense qu'ils voudront continuer, en tout cas dans cette phase 1, cet accord. Le débat, c'est sur la phase 2, où on doit encore échanger une trentaine de civils ou de militaires encore vivants, et il restera encore les corps de tous les otages morts qui devront être échangés au cours de la troisième étape qui devra s'achever par la fin de la guerre. Et cela, une partie du gouvernement, j'ai bien une partie du gouvernement, non pas de la population, qui est plutôt qui veut un cessez-le-feu et qui veut la fin de la guerre, en majorité. Tous les sondages le confirment. Mais une partie du gouvernement, l'extrême droite du Premier ministre Netanyahou, ne veut pas de fin de la guerre. Et cela, Netanyahou sait très bien que son gouvernement risque de tomber. Et s'il y a des élections, il les perdrait selon tous les sondages. Donc cette bulle de Trump, ça lui donne un peu d'oxygène pour les quelques semaines à venir, mais ça va exploser parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire une quelconque délocalisation ni de transfert de Palestiniens nulle part.
On va écouter à ce propos justement le représentant permanent de la Palestine au sein de la Ligue arabe et je vous fais réagir.
Le peuple palestinien ne va pas émigrer ni s'en aller. C'est notre terre et nos cieux. Nous n'avons pas besoin de plans, qu'ils viennent d'Israël ou non, au sujet du déplacement du peuple palestinien en dehors de son territoire. Ce que nous devons faire, sous la direction de la Ligue arabe, du gouvernement palestinien et des États arabes, c'est de consolider l'homme palestinien sur sa terre, en lui fournissant les ressources nécessaires pour y rester. manifester et conserver sa résilience.
Myriam Benrad, quand le représentant de la Palestine au sein de la Ligue arabe dit qu'il faut consolider la présence de la Palestine, elle est là en réalité la solution ?
Alors bon, c'est consolider, c'est quand même très difficile de parler de consolidation alors qu'on vient de voir en quelques mois tout un territoire annihilé. Hein. J'ai pas besoin de revenir sur ce que je vous ai dit précédemment. Toutes les infrastructures ont été détruites, vous l'avez vu. Alors vous avez montré les images satellitaires, les hôpitaux, les écoles, les édifices, tous les bâtiments, tout est à plat. Donc les déclarations de Trump, de toute façon, aussi sont en réaction à ce paysage de dévastation. Aujourd'hui, à part reconstruire, à quel titre on va poursuivre la guerre ? Tout est déjà détruit. Ça a d'ailleurs été dit par les Nations Unies. Il n'y a plus aujourd'hui, et par un certain nombre d'historiens, il n'y a plus de bande de Gaza ou ce qu'on a connu comme étant la bande de Gaza. Donc, on ne peut pas parler de consolidation de présence palestinienne. Je pense que le leadership palestinien s'accroche de manière finalement désespérée aujourd'hui à ce qu'il reste. En effet, ça a été dit par Madame Rezaghi, à ce qu'il reste de Palestine. Et alors, pour revenir à la Cisjordanie, il est vrai qu'on ne parle pas de la Cisjordanie dans ce plan de transfert. Le terme est celui de transfert, hein, qui a été utilisé par un certain nombre d'organisations sionistes dès 1948. Ce n'est pas ni relocalisation, ni réinstallation temporaire, c'est transfert. Donc, du point de vue de la Cisjordanie, je veux bien qu'aujourd'hui, l'armée israélienne n'ait fait aucune déclaration quant à un transfert vers la Jordanie. Mais enfin, la colonisation s'est intensifiée, accélérée. On a des opérations militaires extrêmement lourdes. Et on voit bien que les colons, par ailleurs, qui sont devenus une force dominante en Israël, chassent de manière tout à fait libre, en toute impunité, les habitants qui les gênent dans le cadre de cette extension de la colonisation, ce que les Israéliens ont longtemps appelé les implantations, mais enfin qui ne revient à rien d'autre que de s'emparer de davantage de territoire. C'est un conflit pour le territoire de toute façon. Donc c'est vrai que la seule solution, c'est un partage, mais là où j'ai du mal à croire qu'on a encore une possibilité d'une solution à deux États, c'est encore une fois le paysage délabré en Cisjordanie et puis l'annihilation totale aujourd'hui de Gaza, où les civils ne savent plus où dormir, où manger, ils n'ont plus de vie, si vous voulez, acceptable, imaginable dans cette enclave.
Et ils sont pour autant pas prêts à quitter l'enclave palestinienne. On en a vu certains remonter vers le nord, planter des tentes sur des ruines. Est-ce qu'il y a aussi une question existentielle pour la population palestinienne dans le cas de refuser de quitter sa terre, Insaf Rezaghi ?
Oui, en fait, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans la bande de Gaza, il faut impérativement prendre en compte aussi ce qui se passe en Cisjordanie, parce que cette unité territoriale, c'est ce qu'essaye de remettre en cause aujourd'hui le gouvernement israélien. Et à ce titre, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la Cour internationale de justice, cet été, quand elle rend un avis consultatif, elle constate, elle dresse la liste des politiques et des pratiques israéliennes qui mettent à mal, elle le dit elle-même, la composition démographique de l'intégralité du territoire palestinien. Et je la cite, elle dit « Cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023 ». Et elle liste un ensemble d'actes qui traduisent en fait cette volonté annexionniste et cette volonté de déplacer de force, parce que peu importe les termes que M. Trump a employés, d'un point de vue du droit, c'est une déportation, c'est un transfert forcé de population, qu'elle soit temporaire ou pas temporaire, dès lors qu'on contraint par la force ou par l'intimidation un peuple à quitter son territoire, c'est une violation grave du droit international. Et Donald Trump pourrait très bien être poursuivi par la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête en Palestine. La Cour internationale de justice dit « La composition démographique aujourd'hui de l'intégralité du territoire palestinien est mise à mal par des politiques annexionnistes, colonialistes et par l'occupation militaire qui sépare, qui fragmente et qui morcelle tout le territoire palestinien. » Et donc quand on parle de la bande de Gaza, on doit avoir en tête aussi que la politique qui est menée à Gaza est exactement la même et le même objectif qui est le cas en Cisjordanie, c'est d'empêcher toute souveraineté palestinienne, quelle qu'elle soit, sur ce territoire-là.
James, vous voulez réagir et vous êtes allé plusieurs fois notamment en Cisjordanie.
Je suis allé plusieurs fois en Cisjordanie et juste par rapport à ce que vous disiez, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites que c'est une bulle et que finalement c'est juste une élucubration de la part de Donald Trump. Moi, je ne le pense pas du tout. Et je suis allé effectivement au mois de novembre pour France 24 sur place, donc à Gaza, alors novembre 2023. Au début de cette guerre, et j'ai pu rentrer donc dans la bande de Gaza accompagné de l'armée israélienne. C'était la seule façon d'y rentrer, parce qu'il faut se souvenir d'ailleurs, je le rappelle quand même, que les journalistes ne peuvent pas accéder à la bande de Gaza aujourd'hui. Et ce que j'ai vu à l'intérieur, on est allé jusqu'à la rue Salah Eddine. À l'époque, c'était les transferts de population du nord vers le sud. Et bien, ce que j'ai vu, c'est que toutes les structures tous les bâtiments étaient détruits. Mais au-delà de ça, tous les champs autour de la route et à perte de vue étaient bulldozés. C'est-à-dire que non seulement on a détruit les structures, mais on a détruit tout ce qui était production agricole. À ce stade, ça a été dit, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Et quand vous dites que... Moi, je ne crois pas du tout qu'on verra des soldats avec des camions qui forceront les gens à monter dans les camions. Pas du tout. C'est beaucoup plus lent et subtil que ça. Ce qui est incroyable avec ce qu'a dit Trump, c'est quelque part, les États-Unis donnent leur blanc-seing à ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des représentants de l'autorité palestinienne, pour le coup, donc venus de Cisjordanie, qui sont à Rafah en train de négocier avec les Égyptiens pour faire rentrer de l'aide humanitaire. Et bien, cette aide humanitaire, elle va arriver au sud de la bande de Gaza. À partir de là, vous avez tous les gens qui sont au nord qui ne vont pas pouvoir y accéder. Et il faut se rappeler que les Israéliens imposent un blocus depuis 18 ans sur la bande de Gaza, qu'on ne fait pas rentrer un parpaing, qu'on ne fait pas rentrer un kilo de nourriture sans que cela soit validé par les autorités israéliennes. Donc à partir de là, ils peuvent parfaitement laisser les choses fermées. Dans quel cas, comment voulez-vous continuer à vivre dans le nord de la bande de Gaza, par exemple? Donc si vous avez de l'aide humanitaire qui arrive au sud, eh bien les gens vont naturellement se déplacer vers le sud pour pouvoir en bénéficier. À partir de là, et ça c'est l'autre chose, c'est qu'effectivement l'Égypte et la Jordanie n'ont pas intérêt politiquement et ne souhaitent pas recevoir les Palestiniens. Maintenant, les Américains ont des leviers extrêmement puissants. Quand on voit l'état de l'économie égyptienne, l'Égypte, j'y vais régulièrement, j'ai vu ce pays économiquement dégringoler. Il y a une très forte inflation. On voit au cœur du Caire des gens dormir dehors aujourd'hui. Bien, les États-Unis, c'est 1,3 milliard de dollars d'aide militaire annuelle. Ça fait partie des accords de Camp David. C'est énormément d'aides financières qui vont vers l'Égypte. Eh bien, cette aide-là, Donald Trump est capable, parce qu'il est capable d'imposer 25% de taxes au Canada, il est capable de dire on l'enlève. De la même manière, et ça c'est la dernière chose et j'en finirai là, aujourd'hui, l'économie des territoires palestiniens est dans une situation cataclysmique. Et ce, évidemment, bande de Gaza, on sait dans quel état c'est. Mais il faut se souvenir que lorsque les Américains disent on arrête USAID et on arrête de financer l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens, qui gère 29 camps dans les territoires palestiniens. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête le financement des écoles dans tous ces camps. Ça veut dire qu'on arrête le financement de tous les services. USAID construit les routes en Cisjordanie, mais également, par exemple, gère tout le système d'eau potable à Gaza. S'il cesse de fonctionner, est-ce qu'on a encore de l'eau potable à Gaza? Ça, c'est une vraie question. À partir de là, vous avez rendu une situation totalement inhabitable. Si vous arrivez à ouvrir Rafah, c'est-à-dire à forcer les Égyptiens, forcer les Jordaniens, et d'ailleurs, Trump parle de 12 pays, donc lesquels il a en tête, on ne sait pas, à prendre les Palestiniens. Moi, je pense que le plan n'est pas farfelu, mais surtout, ça acte le fait que si les Palestiniens sont forcés à quitter, par exemple, le nord de la bande de Gaza, eh bien, les Américains seront parfaitement d'accord de voir potentiellement des chars israéliens rentrer dans le nord de Gaza et en prendre possession définitivement. Donc, on a quand même une situation c'est une annonce qui est réelle, c'est pas juste une blague et une élucubration, c'est quelque chose de sérieux.
Dites, il faut le prendre au sérieux.
Oui, il faut le prendre au sérieux. Mais au sérieux dans ce qu'il dit. Qui va s'opposer à Donald Trump et Benjamin Netanyahu? Il n'y a plus personne qui peut s'opposer, à part les Palestiniens eux-mêmes qui vont essayer de se défendre. Mais l'opposition menée par l'Iran n'existe plus, elle est annihilée, le Hezbollah est exsangue, le Hamas est dans l'état qu'on sait, et le reste du monde n'a pas bougé jusqu'à maintenant.
Le reste du monde n'a pas bougé, pas plus qu'il ne bouge beaucoup pour les autres conflits sur la planète. Ce n'est pas la question. Le problème, voyons les faits. Cette guerre et toutes les destructions que vous avez décrites à Gaza, qui sont réelles, sont d'abord la conséquence de l'attaque du 7 octobre. Les Israéliens ne sont pas levés le 7 octobre pour attaquer la bande de Gaza.
Clairement.
C'était clair. C'est une réaction à une agression. Ensuite, la guerre s'est déroulée comme elle s'est déroulée. À l'issue de 16 mois, elle n'est pas terminée, c'est un cessez-le-feu. Les Israéliens ont amélioré leur position stratégique dans la région. Le Hezbollah est très affaibli. La Syrie n'est plus aujourd'hui un danger quelconque puisque le régime s'est écroulé à partir du moment où le Hezbollah, qui soutenait le régime de Bachar, a quitté pratiquement la Syrie. Et le Hamas est très affaibli. Mais le Hamas est toujours présent. On a vu les images samedi dernier, les échanges des otages. Vous avez vu pas mal de miliciens ou de soldats du Hamas bien équipés, des équipements tout neufs, des uniformes tout neufs, qui étaient là. Et d'après toutes les estimations de l'armée israélienne, entre 15 et 20 000 ce sont les chiffres qui sont donnés de soldats du Hamas ont été tués pendant la guerre. Sur les 45 000 ou 46 000 tués de cette guerre estimée par les autorités palestiniennes, il y aurait 15 à 20 000 miliciens du Hamas, d'après les estimations de l'armée. Et depuis,
mais qui ont reconstitué.
Et qui ont été reconstitués, c'est ce que Blinken vient de dire. Voilà. L'a dit, ils ont été reconstitués. Ce qui montre quoi? D'abord qu'il y a beaucoup de chômage, que les jeunes ont besoin de vivre et de survivre, et que le Hamas a de l'argent. Il avait l'argent avant le 7 octobre par les valises de dollars qui venaient du Qatar, que le gouvernement de Netanyahou laissait passer 30 millions de dollars par mois à Gaza pour soi-disant y construire des aménagements pour le peuple, mais ils n'ont construit que 800 km de tunnels avec les parpaings qui passaient malgré tout les contrôles israéliens. Et aujourd'hui, l'argent du Hamas, il vient du trafic encore de l'aide humanitaire que le Hamas revend. Cette aide humanitaire que l'on voit pour la population, elle est revendue et il y a 200% d'augmentation du coût de la vie à Gaza aujourd'hui.
On est bien d'accord que le Hamas...
Donc voilà la réalité. Le Hamas contrôle Gaza. Ne croyons pas qu'il n'y a personne.
Et l'autorité palestinienne
essaye d'être interlocuteur et c'est elle qui devrait être un interlocuteur. Mmh. La faute de Netanyahou et de son gouvernement, c'est de ne pas avoir préparé, à la demande de toute l'opposition israélienne, un jour après la guerre, préparer une alternative au Hamas. Le seul moyen de battre le Hamas, ce n'est pas sur le terrain de la guerre, c'est de donner une alternative politique et donner un espoir à la population d'avoir un changement. Et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas perdre le Nord dans cette situation-là et ne pas, disons, tomber dans toutes les pièges que l'on peut avoir. Et je pense et je suis persuadé que ce sera une bulle parce qu'aucun pays ne les acceptera. Et je ne pense pas que les Américains ont intérêt à ce que le régime de Sisi s'écroule.
Ah, c'est tout à fait... Je suis d'accord avec vous, ça menace tous les régimes de la région.
Ils ne voudront pas ça. C'est stratégique pour les Américains qu'il y ait une stabilité. Trump a dit « je ne veux plus de guerre hein ». C'est à la différence d'il y a 8 ans où on pouvait tout imaginer.
Justement, vous disiez à l'instant que, en tout cas depuis le 7 octobre, la carte de la région a été redessinée. Est-ce que là, les Israéliens, en approuvant très largement le plan de Trump, ne risquent pas aussi de compromettre ces accords d'Abraham signés avec plusieurs États en 2020? Est-ce que ça ne les met pas en péril, ça? Et après, je vous fais réagir, Myriam Benrad.
Écoutez, les Israéliens, vous parlez du gouvernement, parce que la population, ce qu'elle veut, elle veut effectivement la fin de la guerre. Hein, je parle de la population israélienne, c'est en grande majorité, et le retour des otages, etc. Maintenant, le gouvernement, ce qu'il veut, il est un gouvernement très instable. Hein, il a une majorité, certes, à la Knesset, mais il y a deux dates qui vont être importantes pour elle. C'est la fin du cessez-le-feu, et qu'est-ce qui se passera après? Est-ce que ce sera la fin de la guerre? Dans ce cas-là, l'extrême droite quitterait le gouvernement, il n'aura plus sa majorité. Deuxième point, c'est le budget. Le budget doit être voté comme en France. Le 31 mars, c'est la deadline pour le budget. S'il n'est pas voté, le gouvernement tombe. Et pourquoi pourrait-il ne pas être voté? Parce que les partis orthodoxes, qui font partie de cette coalition, exigent l'exemption de l'armée pour les étudiants qui vont dans des écoles talmudiques. Et cela, ça va à l'encontre de ce que veulent la majorité de la population et l'armée également. Donc ces deux sujets peuvent amener le gouvernement à tomber dans les 2 ou 3 mois à venir. Donc, pour le reste, quelle solution? Il faut revenir à une négociation. Il faut d'abord un cessez-le-feu. Il faut ensuite mettre en place une alternative. Et cela, c'est la faute des Israéliens de ne pas avoir contribué à construire cette alternative. Et là, ce qu'on attend de Trump et de l'administration américaine, ce que voulaient Blinken et l'administration Biden précédemment, c'est préparer cette alternative. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que Trump va se fourvoyer s'il pense pouvoir délocaliser ou transférer, appelez-les comme vous voulez, le résultat est le même, les Palestiniens de Gaza.
Ouais, on se réfère au droit, en tout cas, et on parlait de transfert dans le cadre du droit international qui doit être la boussole. Myriam Benrad, je voudrais vous faire réagir à ce qui a été dit à l'instant. Alors, il n'y a peut-être pas en ce moment même d'alternative, mais je reviens encore une fois à la réponse que peuvent apporter les États arabes de la région concernés. Est-ce qu'ils ont tout intérêt maintenant à renforcer ou à donner plus de légitimité au pouvoir incarné, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui par Mahmoud Abbas? C'est lui le président de l'autorité palestinienne.
Oui, mais ce renforcement devait passer par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la préparation le fait d'un jour d'après pour Gaza, ce qui a été complètement en fait passé mis de côté, passé sous silence, parce que dans la presse 7 octobre, en réaction au traumatisme que les massacres perpétrés par le Hamas, le djihad islamique et d'autres civils de Gaza qui s'étaient infiltrés dans le sud d'Israël, la réaction d'Israël a été une réaction d'urgence. J'ai écrit sur le sujet, donc la vengeance fait qu'on est en dehors du droit de toute façon, bien souvent, qu'on est dans la disproportion, qu'on s'aveugle finalement quant aux objectifs qui sont vraiment poursuivis. Mais il y avait cette volonté de faire payer au Hamas, au Gazaoui, les massacres du 7 octobre. Et ce qui est quand même clair, c'est qu'on est resté très longtemps dans cette séquence. Et c'est parce qu'on est resté très longtemps dans cette séquence de déraison, parce qu'on peut vraiment parler de ça, je pense que cette guerre a été irrationnelle. La réponse, les actes du Hamas ont été effroyables et irrationnels, autant que la réponse l'a été finalement dans les mois qui ont suivi. Mais dès lors qu'on est sorti de cette rationalité des deux côtés, on n'était pas du tout en mesure de penser justement à cet après, sur le plan politique, sur le plan de la reconstruction économique, sur le plan de l'investissement de la communauté multilatérale, de la communauté internationale, des instances pardon multilatérales. Et donc, dès lors, je pense que les États arabes se sont retrouvés finalement au milieu de cette grande confusion et soucieux de se préserver, ça a été dit. Et c'est très juste, soucieux de préserver leurs intérêts. En tout cas, c'était très clair du côté égyptien comme du côté jordanien. Et dès lors, aujourd'hui, à part finalement boucler les frontières, déployer l'armée à la frontière et empêcher un transfert des populations palestiniennes, si vraiment le plan était mis en œuvre d'une manière ou d'une autre, je ne vois pas ce que les États arabes vont faire d'autre. Il n'y aura pas de confrontation militaire. Et puis, concernant l'appui à l'autorité palestinienne, quel appui? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de dire, les jeux sont faits pour l'autorité palestinienne en Cisjordanie, qui est soit discréditée, soit très affaiblie. Il n'y a plus de leadership palestinien. Donc, si on devait penser à recréer un leadership palestinien, une autorité palestinienne, y compris pour aller se redéployer vers Gaza, il fallait le faire il y a longtemps. Parce que c'est aussi l'affaiblissement de l'autorité palestinienne, rappelons-le, qui a permis l'émergence et la montée en force du Hamas. Mais je vais finir sur ce point aujourd'hui, ce qui est dramatique. C'est qu'on est passé, en effet, de l'idée d'une transition politique du Hamas vers une autre forme d'autorité de gouvernance dans Gaza. Et on pensait quand même que les Israéliens, au moins une partie de l'establishment politique et militaire, étaient sérieux. Et aujourd'hui, on nous parle finalement d'un plan de transfert, d'évacuation temporaire. Alors, un jour, c'est définitif, un jour, c'est temporaire. Au cours des derniers jours, on a eu un peu de toutes les déclarations. Mais tout de même, on voit que finalement, rien n'a été préparé et qu'on était simplement, comme je l'ai dit, dans une réaction vengeresse disproportionnée qui ne pensait absolument pas à l'après.
Vous vouliez réagir, vous avez acquiescé à ce que disait Myriam Benradine.
Oui, parce qu'on parle souvent de solutions politiques, mais peut-être qu'on peut avoir cette information en tête, c'est qu'il y a seulement quelques mois, donc pendant la guerre, le Parlement israélien, la Knesset, a adopté une résolution transpartisane, donc à l'écrasante majorité, il y a eu seulement 9 députés qui s'y sont opposés, qui rejetaient toute possibilité de création d'un État de Palestine. La réalité aujourd'hui, c'est que de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, il n'y a qu'une seule autorité qui contrôle ce territoire, c'est l'autorité israélienne. Je me suis rendue plusieurs fois dans cette région. Quand vous prenez une route, c'est l'armée israélienne qui est là. Il y a plus de 500 barrages militaires qui quadrillent le territoire palestinien. Un Palestinien, quand il veut quitter le territoire, il passe la frontière israélienne qui décide s'il peut sortir ou rentrer sur le territoire. Un Palestinien de Cisjordanie, s'il veut aller s'établir à Jérusalem-Est, il n'a pas le droit, alors que Jérusalem-Est est censé faire partie de l'État de Palestine. Comme un Palestinien de Gaza n'a pas le droit d'aller aujourd'hui en Cisjordanie, Israël contrôle les ressources naturelles palestiniennes, notamment l'eau. La zone C est très riche en eau. Aujourd'hui, les Palestiniens n'ont pas accès suffisamment au niveau d'eau que fixe l'Organisation mondiale de la santé. Les routes sont contrôlées par l'armée israélienne. L'économie palestinienne est complètement asphyxiée par l'autorité israélienne. La monnaie d'échange aujourd'hui en Palestine, c'est le shekel, c'est la monnaie israélienne. Les colonies ont 800 000 colons. C'est une augmentation de plus de 220% depuis le début des années.
La Cisjordanie, Jérusalem-Est.
Et Jérusalem-Est. En Jérusalem-Est, c'est 230 000 colons dans 14 colonies. Le reste sont en Cisjordanie. Aujourd'hui, un Palestinien, de sa naissance à sa mort, il est contrôlé par l'autorité israélienne. S'il veut s'inscrire sur les registres d'état civil, l'autorité palestinienne doit d'abord demander l'autorisation d'Israël pour pouvoir être enregistré en tant que palestinien et bénéficier d'un numéro d'identité. Donc un simple document comme vous et moi pourrions avoir en allant en mairie aujourd'hui. Donc la réalité, elle est qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est l'occupation militaire qui perdure de ce territoire depuis des décennies et qui empêche aujourd'hui un Palestinien d'avoir tout avenir. Moi, je l'ai vu cet été. Les Palestiniens aujourd'hui, en Cisjordanie, n'ont plus aucun espoir. Ils n'attendent plus rien de la société internationale.
David Chemla, je vous laisse répondre à ce qui vient de
dire. Il y aurait beaucoup à dire. Alors, je ne sais pas si dans la zone A, qui est la zone sous contrôle de l'autorité palestinienne suite aux accords d'Oslo, je ne savais pas que les Palestiniens ne pouvaient pas donner un document d'identité à un Palestinien qui naît dans la zone A, Ramallah ou dans une vie patiente. Ça, j'ignore ce point-là. Par contre, écoutez, on peut certes faire ce bilan tel que vous le dressez, mais quand vous, par exemple, vous parlez des colons, alors ces colons, on va différencier leur statut. Ceux de Jérusalem-Est, ce sont des quartiers qui ont été annexés.
Illicites en droit international.
Qui ont été annexés après la guerre des Six Jours, et dans lesquels, maintenant, il y a des quartiers juifs et des quartiers arabes. Bon, ça, c'est une chose. Et par ailleurs, pour la Cisjordanie, ce qu'on appelle tout ce territoire que les Israéliens appellent Judée-Samarie pour certains, peu importe le nom. Il y a effectivement à peu près 600 000 colons qui s'y sont installés depuis 1967. Alors, il faut voir que ces 600 000 colons, 80% à peu près d'entre eux, vivent sur une bande de terre qui est l'ordre de 3-4% du territoire cisjordanien, qui est limitrophe à l'ancienne frontière, ce qu'on appelle la ligne verte, à peu près autour de 4%. Notamment, ce sont des grandes villes où vivent des orthodoxes, des familles orthodoxes. Ce sont des villes où il y a soit 40, 60, 80 000, enfin, il faut prendre les chiffres exacts. Ce qui veut dire que sur 4%, vous avez à peu près 80% des colons, 4% du territoire. Toutes les solutions imaginées et par des gens très sérieux qui ont fait pour cela des analyses basent sur la possibilité d'un accord de séparation sur la base d'échanges de territoire pour que les Palestiniens puissent un jour avoir un État, je parle de la Cisjordanie, Gaza, on peut en parler si vous voulez après, dans le cadre d'échanges de territoire, 80% des colons resteraient sur ces 4% du territoire. En échange, Israël donnerait 4% du territoire israélien d'avant 67 aux Palestiniens pour compenser ces 4% dans ce cadre-là, ce qui fait qu'il ne reste que 20% de colons à déménager dans le cadre d'un accord. Ce sont ça, sur cette base-là, qu'on travaille. Et pour compenser ces 4% du territoire, c'est mettre, disons, un chemin de fer, une route, des tunnels, tous ces plans existent entre Gaza et la Cisjordanie pour permettre cette continuité. Ces plans existent. Ça semble aujourd'hui irréaliste, mais ça a été évoqué pendant le plan de Genève, signé par des Palestiniens et des Israéliens en 2003 à Genève par l'opposition israélienne de l'époque et par des gens du Fatah et non pas du Hamas, parce que c'était sur la base de la reconnaissance mutuelle. Le Hamas n'est pas dans cette logique. Le Hamas, pour le Hamas, il n'y a pas d'État israélien. S'ils veulent un État de la mer au Jourdain, ils veulent l'intégrité du territoire. Donc c'est avec eux on ne peut pas négocier. Il faudra donc trouver une alternative. Ils existent, et moi je vais souvent aussi là-bas, j'y suis la semaine prochaine, des Palestiniens qui sont ouvert de l'autorité palestinienne ou qui travaille dans le cadre de l'autorité palestinienne. Pas besoin de donner des noms ici. Olmert, l'ancien premier ministre israélien, a fait récemment des déclarations avec l'ancien ministre des Affaires étrangères palestinien qui était représentant à l'ONU, le neveu de Yasser Arafat, dans ce sens-là. Les principes d'un accord existent. Il faut une volonté politique. Il faut un changement politique en Israël. Il pourra advenir suite à des élections. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un État palestinien aujourd'hui. Il faudra peut-être passer par une phase de transition qui serait une séparation. Je crois qu'il faut séparer ces deux populations pour leur redonner, après tous ces traumatismes, il faut redonner la confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Après les accords d'Oslo, vous savez, ce que m'ont dit les Palestiniens, mes amis, ils m'ont dit, la semaine d'avant, on lançait des pierres et des cocktails Molotov. Après la signature des accords d'Oslo, on donnait des fleurs aux soldats. C'était il y a, aujourd'hui, en 1995. Aujourd'hui, on n'en est pas là, évidemment.
Non, je disais, malheureusement, l'accord d'Oslo est bien mal en point.
J'ai vécu cette période, vous étiez...
Il était né déjà.
Mais ce que vous montrez, c'est que il faut recréer la confiance. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut aujourd'hui la séparation.
Vous reconnaîtrez qu'en ce moment, les Israéliens à Jenin, par exemple, ne sont pas en train de recréer confiance.
Non, mais les Israéliens à Jenin, il y a des cellules du Hamas.
Pour avoir fait des reportages à Hébron récemment, on est quand même dans une situation cisjordanie qui est gravissime. Le territoire est complètement asphyxié. On met une pression maximale sur les Palestiniens de la part des Israéliens. Et on est quand même dans une situation où les colons ont libre cours, et ou même des activistes israéliens de gauche qui veulent créer du lien avec les Palestiniens se voient arrêtés par l'armée. Mais on est quand même vraiment très loin de la période des accords d'Oslo.
Finissez, James.
Non, désolé, mais ça c'était juste ça. Mais pour en revenir juste à notre débat de départ, je pense aussi que potentiellement Donald Trump essaye de faire démarrer quelque chose. Et d'ailleurs, le Hamas appelle maintenant un sommet arabe. Et juste parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je me demande s'il n'est pas en train de faire ce qu'il avait déjà fait en 2020 avec les Émirats, parce que c'est-à-dire qu'en 2020, Donald Trump avait menacé de l'annexion de la Cisjordanie justement par Israël, ce qui avait à l'époque fait que les Émirats avaient signé les accords d'Abraham, puisqu'ils s'étaient retrouvés dans une posture où ils avaient dû renoncer à leur demande d'un État palestinien en disant, écoutez, ce qu'on a négocié, c'est qu'il n'y a pas d'annexion. Donc est-ce que par hasard, ils ne seraient pas en train de mettre l'Arabie Saoudite au pied du mur de la même manière, en disant à l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite dit aujourd'hui, je ne signerai les accords d'Abraham et la paix avec Israël que s'il y a un État palestinien, eh bien, qu'ils disent, eh bien, on va signer pour qu'il n'y ait pas de prise de contrôle de Gaza par les Américains, d'expulsion des Palestiniens, ce qui, pour le coup, est un objectif intéressant pour les États-Unis.
Ce que vous voulez dire, ce qui n'était pas acceptable il y a encore quelques temps, pourrait le devenir aujourd'hui?
De toute façon, ce qui n'était pas acceptable il y a 72 heures, est aujourd'hui défendu par le président des États-Unis. Donc ça, c'est quand même déjà la base. Sachant qu'il fait cette déclaration, parce qu'on parle beaucoup de droit international, à côté d'un premier ministre israélien qui est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt international par la CPI. Donc on est quand même, en termes de droit international, et puis rappelons-nous quand même que Donald Trump, déjà dans son premier mandat, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël de manière unilatérale, ce que le reste du monde occidental n'a pas fait, hein, déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qu'il a reconnu le contrôle israélien sur le plateau du Golan, que l'ONU appelle encore aujourd'hui le plateau du Golan, le Golan syrien occupé par Israël. Enfin, je veux dire, il a montré son soutien très très fort aux Israéliens et il a déjà fait des gestes qui, à l'époque, paraissaient extrêmement forts. Là, on est sur une autre échelle. Mais il a déjà démontré qu'il était capable de secouer le cocotier, dirons-nous.
Myriam Benrad, je voudrais vous interroger sur la visite du roi Abdallah de Jordanie qui est attendue la semaine prochaine aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Qu'est-ce qui pourrait en ressortir, puisqu'on n'a pas encore abordé la question jordanienne?
Je pense qu'il il ressortira de cette réunion, ce qu'il ressortira sans doute des échanges avec les Égyptiens, hein, une opposition total à toute idée de transfert des populations palestiniennes. Donc là, en l'occurrence, ce serait de Cisjordanie, alors éventuellement de Gaza, mais enfin, ça a toujours été la Cisjordanie le point de fixation. Une opposition totale, puisque, en effet, bon, il y a la question de l'autodétermination des Palestiniens, tout de même un soutien formel aux droits du peuple palestinien, à la solution à deux États, que répète comme un mantra un État comme la Jordanie. Il faut dire qu'une grande partie des réfugiés de la Nakba historique de 1948 sont partis en Jordanie. Une proportion importante de la population jordanienne aujourd'hui est d'origine palestinienne, soulignons-le. Cette présence palestinienne, elle est aujourd'hui quasi normalisée, mais elle a été un facteur d'instabilité pendant très longtemps, en tout cas perçue comme telle. Et aujourd'hui, l'arrivée de millions ou même de centaines de milliers de Palestiniens constituerait un élément de déstabilisation, non seulement potentiellement sur le plan politique, mais aussi il y a la question de la situation économique en Jordanie. La Jordanie n'aurait pas les moyens d'assimiler ces nouveaux arrivants. Donc vous voyez tout de même qu'il y a un faisceau de facteurs, de raisons qui font que la Jordanie opposera un non catégorique à cette idée d'un départ des Palestiniens.
Quelle que soit sa réaction, ce qui sera dit au président Trump, on a l'impression justement que la Jordanie est au pied du mur et est bien embarrassée. Évidemment, refuser ce plan, c'est aussi aller dans le sens de ce que la rue jordanienne ou ailleurs dirait. Et dans le même temps, absorber cette population, ce serait impossible. Donc en fait, on a l'impression que c'est une impasse totale pour la Jordanie, pour l'Arabie Saoudite, pour l'Égypte également.
Alors une impasse, tout va dépendre aujourd'hui, je dirais, des pressions américaines qui vont être exercées. Parce que là où je suis assez d'accord avec Monsieur André, c'est que ce n'est pas seulement de l'élucubration. On a vu lors de la première administration de Donald Trump le déplacement de l'ambassade vers Jérusalem. On a vu quand même une optique très pro-israélienne qui aujourd'hui tend à se radicaliser. Est-ce que Trump ira jusqu'à mettre des pressions plus forte sur l'Égypte et la Jordanie, notamment en matière d'aide financière?
Quand vous dites pression, pardon, juste pour qu'on soit clair, quand vous dites pression, c'est chantage?
Oui, bien sûr, un chantage à l'aide aux subventions, à l'aide financière, dont dépend au premier plan un pays comme l'Égypte. Si aujourd'hui l'Égypte perd son soutien financier américain, l'Égypte est un pays qui s'effondre. Il faut quand même voir la situation économique intérieure. Donc là, il y aurait un moyen de pression très fort. C'est bien pour ça que je me placerai pour ma part un peu entre les deux. On est en effet peut-être sur un scénario qui peut sembler être une bulle, mais on est aussi quand même sur du réel. Ça n'est pas simplement, ça a été très bien dit, de l'élucubration et des déclarations en l'air. Et la preuve, aujourd'hui, on a quand même l'armée israélienne qui préparait un plan. L'armée israélienne ne s'amuse pas à préparer des plans s'il n'y a pas tout de même une once de pragmatisme, de réalité à ces déclarations. Voilà. Donc c'est quand même très inquiétant parce que là, ça voudrait dire vraiment une déstabilisation de plus grande ampleur qui toucherait deux États relativement, je dirais, stables pour l'heure, que sont la Jordanie et l'Égypte.
David Chemla, est-ce que ce qui est en train de se passer ne met pas aussi en péril la sécurité de l'État d'Israël, que ce soit Netanyahu ou Trump, ils ne sont pas éternels?
Tout à fait, et je pense que la meilleure sécurité, c'est d'avoir des bons voisins. Et imaginez transférer, délocaliser des Palestiniens à l'étranger. D'abord, ils ne partiront pas tous. Il y a des micro-trottoirs qui sont faits. Il y a peut-être beaucoup de jeunes Palestiniens de Gaza qui aimeraient partir, parce que qui n'aimerait pas partir de Gaza vu la situation catastrophique dans laquelle se trouve la ville. Alors, il est possible qu'il y a 10 000, 50 000 jeunes qui accepteraient d'avoir un billet pour aller quelque part. Mais faut-il qu'ils soient acceptés. Mais d'un autre côté, pas 2 millions de personnes. Alors, soyons réalistes. Donc, il faut trouver cette solution. Je suis convaincu. Le mouvement auquel je suis rattaché, La Paix Maintenant, vous parlez de tout ce qui se passe à Jenin et à Hebron. Toutes les documentations que vous avez, c'est le travail que fait le mouvement comme La Paix Maintenant, qui cherche exactement la situation sur place des actions, des colons, des routes qui sont construites, etc. Donc, et nous savons qu'il faudra y arriver. Pour la sécurité d'Israël, aujourd'hui, il y a eu un traumatisme très fort le 7 octobre. Hein. On n'a pas encore mis en place une commission, parce que le gouvernement ne veut pas mettre en place une commission pour analyser les responsabilités militaire et politique de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'était la politique de Netanyahou qui a conduit à cela. Les militaires ont assumé leurs responsabilités. Le chef d'état-major a démissionné et d'autres responsables. Le gouvernement ne l'a pas fait. C'est l'erreur de cette politique qu'il faut condamner, parce qu'elle mène à une impasse pour les deux peuples.
Oui, moi je pense que l'impasse, c'est l'occupation militaire en fait qui persiste. On l'oublie souvent, mais en fait, il y a un principe fondamental qui est aujourd'hui violé depuis des décennies en Palestine, c'est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, à qui on n'a jamais demandé son avis, qui n'a jamais eu le droit de déterminer son statut politique sur sa terre, et qui maintenant en plus devrait être contraint de la quitter. On parlait de la colonisation, etc. Jérusalem-Est, par exemple. On devrait leur enlever Jérusalem-Est alors que c'est leur territoire, mais pour rien au monde, ils ne se séparent de Jérusalem-Est, qui est considéré aujourd'hui comme un territoire occupé, annexé par Israël. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est qu'en Cisjordanie, le territoire, il est complètement fragmenté, il est complètement morcelé, qu'Israël interdit la construction de structures palestiniennes dans 60% du territoire de Cisjordanie, la zone C, qu'ils n'ont pas accès à leurs propres ressources naturelles, qu'ils sont empêchés parfois de cultiver leurs propres terres, qu'ils sont parfois... Je rappelle qu'avant le 7 octobre, l'année juste avant le 7 octobre était l'année la plus meurtrière en Palestine, et aujourd'hui ça se poursuit à Jenin, et ce n'est que le prolongement de décennies de gauche comme de droite de politique israélienne.
Merci beaucoup.
Merci Nabia, et à vous nos auditeurs, nous disons à bientôt.